18h32, vous le savez, le système de santé québécois est aux aguets. J'allais dire aux abois, mais non, il est aux aguets. On demande vigilance de tous les gens qui sont dans le réseau. On ne veut pas que le coronavirus se faufile dans une clinique, dans un hôpital. Vous avez entendu tantôt l'ancienne infirmière Marie-Sophie Lheureux qui agit comme garde de triage à l'extérieur de la clinique pour littéralement, physiquement, empêcher les gens de rentrer. C'est un peu le même genre de mesures qu'on prend dans les hôpitaux. Et on le sait, s'il y a un scénario à l'italienne ou la moitié d'un scénario à l'italienne qui se profile au Québec, ben on va avoir besoin de tous les bras qu'on peut avoir dans les allées d'hôpitaux, dans les salles d'urgence, dans les salles de soins intensifs, à tel point que le gouvernement du Québec a demandé aux gens qui ont déjà travaillé dans le réseau, ça inclut les infirmières, de se manifester si elles veulent revenir travailler comme ça. Mais ça pose toute la question de la validité des formations. Et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a assoupli ses règles pour permettre aux ex-infirmières de donner un coup de main dans le milieu de la santé. On en parle tout de suite avec Luc Mathieu, qui est président de l'Ordre. Monsieur Mathieu, bonsoir.
Oui, bonsoir, M. Lagacé.
Donc, écoutez, un infirmier, une infirmière qui déciderait de se porter volontaire, quel geste doit-il poser, doit-il poser maintenant?
Bien, avant de répondre à votre question, là, je voudrais juste m'adresser aux membres de l'Ordre pour dire combien je suis très fier des membres de l'Ordre actuellement. Là, ils font preuve de solidarité pour faire face à la pandémie dans le réseau. Puis aussi remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont déjà commencé à nous interpeller, qui ont communiqué avec nous pour les instances gouvernementales afin de prêter main forte dans le but de combattre la pandémie du COVID-19.
Vous avez eu combien de demandes jusqu'à maintenant?
On a au moins autour de 200 là, personnes qui sont déjà mises en ligne, si je peux dire ça, là, pour qu'on traite leurs demandes.
OK. Et la plupart des personnes, j'imagine, sont des personnes qui étaient à la retraite, c'est ça?
Soit à la retraite ou qui avaient quitté la profession là, pour toutes sortes de raisons, changé de domaine d'emploi et qui, compte tenu de la situation actuelle, sont intéressés à venir donner un coup de main là, pour faire face à la pandémie.
OK. Qu'est-ce qui les attend? Est-ce qu'on doit mettre des compétences à jour? Est-ce qu'on doit payer quelque chose?
Oui, c'est ça. Bien, il y a deux options qu'on a mis en place. Là. Une qui découle de l'arrêté ministériel là, qui permet de donner une autorisation spéciale d'état d'urgence sanitaire. Alors ça, c'est une option. Puis dans les deux options, c'est sans paiement. Ça, il faut être bien clair pour tout le monde. Dans la première option, là, l'autorisation spéciale d'état d'urgence sanitaire, les gens doivent être âgés de moins de 70 ans, ne pas être membre de l'Ordre depuis moins de 5 ans. Puis avoir préalablement été sélectionné par un établissement de santé là, pour contribuer à la prévention puis au contrôle du COVID-19.
Okay.
Alors ça, c'est la première option. La deuxième qu'on a fait adopter par notre conseil d'administration, c'est pour être complémentaire à la première option, c'est pour les infirmières qui sont plus membres de l'Ordre depuis plus de 5 ans. Par exemple, une infirmière qui aurait décidé d'aller aux études et puis ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas inscrite puis qu'il faudrait revenir. Alors là, on a un autre processus qui est complémentaire. Dans la première option, les membres ne sont pas membres de l'Ordre. Ça, c'est en fonction de l'arrêté ministériel. Dans la deuxième option, là, ils vont s'inscrire à l'Ordre, toujours gratuitement, et ils vont être inscrits au tableau, comme on dit dans notre jargon, puis ils vont être membres de l'Ordre. Et là, on leur demande on vérifie avec eux s'ils ont pratiqué là, 500 heures au moins au cours des 4 dernières années. Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des limitations là, dans leur droit d'exercice. Par exemple, être limité des activités d'évaluation, d'enseignement puis de conseil qui sont liées à la prévention. Là. Par exemple, dans la ligne 8-1, ça pourrait être un exemple.
Mais encore là, ça demeure utile dans le cas où on a besoin de tous les bras sur le terrain parce que les infirmières qui feraient ce genre de travail-là, ben vont pouvoir aller soigner des patients pendant que leurs collègues qui sont inactifs depuis 5 ans font du travail plus administratif.
Oui, ça c'est en fonction des besoins, c'est les établissements du réseau qui vont décider d'affecter les infirmières et les infirmiers selon leurs besoins. Nous, on gère le processus plus réglementaire en fonction de la mission de protection du public. Il faut s'assurer d'une compétence minimum des gens. Alors, c'est comme ça que ça va se passer.
OK. Ça coûte 400 $ à être inscrit au tableau de l'Ordre, faire partie de l'Ordre des infirmières, là, ce qui est une obligation.
Oui.
Ce 400 $-là, pour les nouveaux, les nouvelles, entre guillemets, là, les gens qui reviennent dans le feu de l'action, on n'aura même pas à sortir 400 $ de notre poche pour payer.
Non, exactement. Dans les deux options que j'ai mentionnées, là, dans les deux cas, il n'y a pas de frais.
C'est le gouvernement qui va payer ça pour vous.
Oui, ça, on a des discussions à avoir avec le gouvernement, mais pour le moment, là, on se préoccupe de rendre les infirmières et infirmiers accessibles dans le réseau.
Ça vous dit quoi, cette réponse-là, cette réponse enthousiaste des gens là, qui ont répondu à l'appel du gouvernement?
Ben, c'est la réponse habituelle des infirmières, des infirmiers qui sont toujours, comment je dirais ça, ils ont la main sur le cœur là, pour faire face là, aux différentes réalités socio-sanitaires du réseau de la santé. C'est une profession de proximité. Alors, moi, je suis pas surpris, je suis pas étonné, là, mais je suis quand même très fier de la réponse des membres de l'Ordre.
OK. Vous êtes, Luc Mathieu, vous êtes président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Vous êtes proche de ces gens-là. Ces gens-là vont être proches de l'action dans les prochains mois. Qu'est-ce qui vous inquiète pour les prochaines semaines, les prochains mois?
Ce qui m'inquiète, ce qui pas de l'inquiétude, là, la préoccupation, c'est s'assurer que les gens ont la compétence, là, comme président d'ordre, là, pour agir. Pour ceux dans la première option, là, qui sont en fonction de l'arrêté ministériel, qui sont pas membres de l'ordre, là, c'est aux établissements de s'assurer et qui de la compétence des membres, et puis doivent prendre soin d'eux. Alors, c'est ça ma préoccupation, c'est qu'on prenne soin des infirmières, des infirmiers, leur donner le soutien nécessaire, de ne pas abuser d'eux. Déjà, on était dans un contexte là, régulier de temps supplémentaire obligatoire, oui. De TSO, comme on le dit. Alors là, moi, j'en appelle à tous les intervenants du réseau de la santé de prendre soin, non seulement des infirmières, mais de tous les professionnels de la santé. Vous l'avez mentionné vous-même dans une de vos chroniques récemment. Ça devient très important de se soucier de ça. Le premier ministre l'a mentionné dans ses points de presse. Là, il faut passer à l'action parce que ça risque de durer un certain temps. Hein. On parle de mois dans certains milieux. Alors, faut pas que les intentions du départ s'atténuent avec le temps. Alors, il va falloir rester vigilant, là, tous et chacun. La solidarité qui déjà s'exprime là au niveau de la société québécoise, ben, faut que ça se repercute aussi pour les soignants qui sont au front. Là, c'est vraiment là dans cette guerre-là au COVID-19. Infirmières, médecins et autres professionnels de la santé.
Pensez-vous qu'après, vous êtes au cœur là, du système de santé, Luc Mathieu, là, parce que vous êtes président de l'Ordre des infirmiers et des infirmières. Pensez-vous que quand la poussière va être retombée, quand on va faire l'analyse de ce qu'on aura bien fait et moins bien fait, pensez-vous que ça peut mener à une sorte est-ce qu'on va réimaginer le système de santé?
Ben, ça va dépendre des leçons qu'on va apprendre de cet épisode-là, qui est assez unique. Là. Moi, dans ma carrière, j'ai quand même 42 ans de pratique là, dans la profession. J'ai pas vu ça encore. C'est assez particulier, mais je pense qu'il va y avoir des leçons à tirer, des choses qu'on a bien faites, d'autres qu'on aurait dû faire autrement. Mais à date, là, moi, je pense que les choses se passent très bien. Mmh. On a une équipe au gouvernement là, qui tient ça là, de main de maître, à mon avis. Et c'est ça. Il faudra voir les leçons qu'on tire de cet épisode-là.
T'sais, je vous pose la question parce que on sait que la question du manque de matériel se pose. Des masques, des équipements de protection, ça s'est posé. Ça se pose aux États-Unis, ça se pose ici, ça se pose en France. Hier, je parlais avec un médecin français qui était scandalisé que là-bas, on n'ait pas une réserve stratégique de masques. On a beaucoup coupé, on a beaucoup rationalisé les effectifs, les ressources dans le milieu de la santé. C'est là que je m'en allais avec la question, M. Mathieu. Des fois, trop, c'est peut-être mieux.
Tout à fait, parce que là, on vit les effets, comment je peux dire ça, donc, d'une réforme, là, la réforme du précédent gouvernement de la santé, le réseau vit encore avec les effets de ça. Moi, je me promène là, dans les régions actuellement, et puis le réseau déjà était sous tension. Il y avait des problèmes d'effectifs là, en quantité puis en qualité dans certains milieux, dans les CHSLD notamment, là, j'insiste là-dessus parce que c'est parmi les clientèles les plus vulnérables qu'on a dans le réseau de la santé. Alors ça, là, ça s'inscrit dans le contexte plus général. La crise qu'on vit du COVID-19 se rajoute à ce contexte-là. L'autre préoccupation aussi qui me vient là, à l'esprit, c'est le soutien qu'on donne aux jeunes infirmières qui arrivent dans le réseau. Parce qu'elles arrivent là maintenant dans un contexte assez particulier, exceptionnel. Alors déjà ça, dans le réseau, là, le message qu'on recevait de nos membres, c'est que le soutien clinique qui était donné aux jeunes, et même aux moins jeunes, il était très peu présent. C'est une des choses qui a été coupée beaucoup là, lors de la réforme du précédent gouvernement. Et là, il faudrait se préoccuper de ça, d'offrir du soutien clinique pour que les gens restent, pour pas devant, s'il n'y a pas de soutien clinique, devant des situations qu'ils n'ont jamais vues, qui sauvent en courant, là, si je peux me permettre cette expression-là.
Bon, avant de vous laisser aller, Luc Mathieu, est-ce que vous auriez un message pour les gens qui nous écoutent, anciens infirmiers, anciennes infirmières, qui pourraient être tentés de vous faire signe pour reprendre du service?
Oui, ben de pas hésiter là, à nous contacter alors, d'aller sur le site Internet. On est en train d'ajuster nos processus administratifs. Il y a toutes les informations, adresses Internet, courriel, etc., qui sont là. Ne pas hésiter. On va dans le processus là, qu'on va faire pour traiter les gens. C'est un accompagnement personnalisé qui va se faire au téléphone avec chaque personne pour pas que les gens soient bloqués par des processus administratifs qu'on rend le plus simple possible, mais que les gens pourraient trouver quand même compliqué.
Très bien. Merci beaucoup, Luc Mathieu.
Ça m'a fait plaisir.